Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Le jeudi 13 octobre, la Ligue des droits de l'homme de l'Ain et ABCDE vont organiser un grand événement axé sur la problématique de l'eau qui aura comme intervenant Agnès Ducharne, hydrologue chercheuse au CNRS, et François Veillerette, directeur de Génération Future. Ces conférences seront précédées de tables rondes animées par Emmanuel Hiverna de France Nature Environnement, qui abordera le plan local, ainsi que par Xavier Fromont, qui donnera le point de vue de la Confédération Paysanne. Xavier Fromont, que j'accueille aujourd'hui en prélude de cette conférence. Bonjour Xavier Fromont. Est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord qui vous êtes ?
Oui, ben bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Donc, je suis Xavier Fromont, je suis agriculteur à Confrançon, une commune bressane, voilà, à 15 km de Bourg en direction de Mâcon, en pleine Bresse, en pleine zone Bresse. Je suis avant tout éleveur, j'élève des vaches allaitantes de race limousine. Et mon système de ferme tourne sur une soixantaine d'hectares, une trentaine d'hectares d'herbes, dont une bonne moitié en prairie permanente et en zone humide, et puis une trentaine d'hectares de cultures, donc des cultures diversifiées, soja, blé, petite épeautre, lentilles parfois, colza, etc., qui sont destinées plutôt à la vente.
D'accord, donc vous avez un type d'agriculture, si on peut dire, diversifiée.
Oui, c'est ça. C'est une exploitation de type polyculture-élevage. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de les qualifier. Sont des modèles qui apportent beaucoup d'avantages, puisque la complémentarité entre l'élevage et l'apport de matière organique, notamment que suppose cette activité, et puis l'activité de culture, est en fait gagnant-gagnant, puisqu'en fait, on diminue les intrants, on améliore la qualité des sols, on peut faire tourner les prairies en rotation sur les surfaces. Voilà, il y a beaucoup d'avantages d'être en polyculture et élevage par rapport à être dans une situation uniquement de culture, de production végétale ou uniquement de production animale, hein, parce que ça existe aussi.
Donc vos pratiques rejoignent complètement donc les données de la Confédération Paysanne.
Oui, on peut dire ça. Enfin, c'est vrai que c'est un système qu'on pousse beaucoup au niveau de la Confédération Paysanne en se disant que 40 ans d'évolution agricole vers des spécialisations de ferme et des spécialisations de territoire a quand même entraîné un certain nombre d'inconvénients, on va dire, tant au niveau environnemental que même sensibilité économique des fermes par rapport à leur autonomie notamment. Et donc c'est vrai que le système de polyculture élevage est quand même un système intéressant, mais c'est aussi pas donné à tout le monde d'avoir la chance de reprendre une ferme en polyculture élevage. Donc je mesure ma chance, et je mesure le travail de mes parents et de mes grands-parents, puisque c'est une ferme familiale.
L'héritage.
Voilà, ouais. L'héritage en tout cas.
Et la transmission qui vous a été faite.
La transmission. Je pense que plus que l'héritage, c'est la transmission, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'installent hors cadre familial, qu'on appelle hors cadre familial. Mais il faut quand même une transmission de ferme, et ça c'est extrêmement important. C'est un sujet qui nous tient à cœur à la conf. Enfin, puisqu'on agit beaucoup sur les projets diversifiés, sur les reprises d'exploitation, pour qu'il y ait une diversité d'agriculture, une diversité de fermes.
Comment vous avez vécu cet été cataclysmique, hein, notamment au niveau de l'eau et des incendies ?
Alors
en tant que paysan et en tant que militant.
Oui, alors en tant que paysan, d'abord effectivement une ferme en polyculture élevage, je vais y arriver, c'est effectivement des animaux à nourrir, et pour ma part des animaux qui se nourrissent à l'herbe à peu près 9 mois sur 12, on va dire 8 mois sur 12, et des fois plus. Et donc quand on a une période estivale avec un tel déficit en eau tel qu'on l'a connu, et le pâturage n'est plus possible, et on s'aperçoit d'année en année, au fil des années, enfin moi je m'aperçois dans ma carrière de paysan, que ces périodes estivales sans eau et donc sans herbe, elles ont tendance à se multiplier. Donc on essaye de s'adapter à ça, évidemment, hein, d'adapter nos systèmes de ferme à ça. Et l'une des adaptations, par exemple, à laquelle je pense immédiatement, c'est qu'on va essayer de constituer des stocks avant l'été, à partir de plantes qui se développent pendant l'hiver pendant la période arrosée. Et donc, on va récolter ces plantes au mois de mai, en gros mai, ouais, autour du 15 mai, qui va nous faire une base pour passer l'été de façon satisfaisante. Voilà, ce qui s'est passé cette année, d'ailleurs, hein, il faut le dire. Hein, voilà.
Ce qui vous a permis de passer l'été.
Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
Et si on en revient à un plan plus général, est-ce qu'il y a de nouveaux choix à faire, notamment en matière de culture, d'irrigation ?
Alors, l'irrigation est une nécessité. Hein. Nous, on est très clair là-dessus. L'irrigation est une nécessité pour une partie de l'agriculture. En fait, la vraie question, la question principale pour nous, c'est qu'est-ce qu'on doit irriguer ? Quelle culture irriguer ? Et on a une réponse quand même assez, assez tranchée en la matière. Bon, bien qu'elle souffre aussi de quelques nuances quelquefois, mais en tout cas, nous, il nous semble important de flécher, de prioriser l'irrigation sur les cultures vivrières, c'est-à-dire sur les cultures qui sont consommées directement par les hommes au plus près des territoires, voilà, alimentaires, pour une agriculture alimentaire, on va dire.
Qu'est-ce que vous ciblez quand vous dites ça ?
Par exemple, les protéines végétales qui sont à la mode aujourd'hui et qui sont relativement vertueuses en termes d'environnement, et ben ces cultures-là, on peut les irriguer. Par exemple, le maraîchage, tout ce qui est production légumière, il est légitime d'irriguer ces cultures légumières parce qu'elles sont consommées directement par des agriculteurs, par les consommateurs au plus près des territoires. Hein, voilà, et c'est ça qui est important.
Donc, alors là, vous priorisez ce type de culture et lesquelles il faudrait plutôt discriminer.
En tout cas, on peut se poser la question sur des cultures qui sont destinées à l'export ou qui sont destinées à la consommation par des productions animales. Voilà, faut pas stigmatiser une culture plus qu'une autre, mais en tout cas, on peut se poser la question quand on a un système qui est basé sur des cultures d'exportation, de grande production. Est-ce qu'on doit vraiment prioriser la consommation d'eau, l'utilisation de l'eau pour ces cultures plutôt que pour des cultures maraîchères et tout ça ? Nous, il nous semble que non. Donc, il faut. Voilà.
Ce qui concerne la vie des hommes et le fait de les nourrir directement.
C'est ça. Nous, c'est cette priorité qui nous semble juste d'adopter. Voilà, plutôt réfléchir à des cultures moins consommatrices en eau, que l'on puisse réaliser au maximum en sec, donc sans irrigation, pour ce qui est de l'alimentation animale ou pour ce qui est des cultures d'exportation, voire industrielles, voire énergétiques. Hein, voilà, je dois évoquer immédiatement un phénomène qui se développe sur notre territoire de Grand Bourg Agglomération, qui est la multiplication des méthaniseurs, qui nous interroge beaucoup. Non pas que la technique ne soit pas intéressante, au contraire, elle est très intéressante quand elle permet de transformer des déjections animales en gaz pour la consommation, et donc ça, c'est judicieux. Mais en fait, on voit que de plus en plus, la logique des énergéticiens notamment, c'était de développer des gros projets en injection directement dans les réseaux de gaz et avec une consommation de produits végétaux importante. Donc du coup, on va produire du maïs, du seigle pour alimenter les méthaniseurs et produire du gaz. Et ça nous interroge vraiment. Voilà.
On sort de l'objet de l'agriculture qui est de nourrir la population, c'est ce que vous voulez dire.
Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. En tout cas, on doit le raisonner, on doit en faire l'inventaire, on doit être prudent par rapport à ça, parce que ça risque de poser de sérieux problèmes, simplement en termes d'alimentation, d'autonomie alimentaire de nos populations, mais aussi, voilà, de concurrence sur l'utilisation du foncier, de concurrence par rapport à l'alimentation des animaux aussi, hein, voilà, quand on vit une sécheresse comme cette année, et ben, on sait qu'un certain nombre de nos collègues, pas beaucoup dans l'Ain, parce que les systèmes sont quand même plutôt résilients, et la sécheresse qu'on a vécue, si on la compare à 2003, je pense que dans les systèmes polyculture élevage, elle a été relativement bien gérée. Mais en tout cas, un certain nombre de nos collègues sur les départements voisins vont manquer de fourrage, et vont manquer cruellement de fourrage. Donc voilà.
D'accord. Alors, comment se fait-il qu'une initiative qui était au départ vertueuse se retrouve... produisent le contraire de ce qu'elles faisaient espérer.
Ben, on touche là un petit peu aux problèmes généraux du financement public de l'agriculture. Hein, et ça, c'est vraiment le gaz, par exemple, la méthanisation, c'en est presque l'expression la plus triviale, c'est-à-dire qu'on a dépensé, on met les moyens, on dépense beaucoup de moyens pour subventionner la création d'un méthaniseur ou pour subventionner le prix du gaz qui est racheté au méthaniseur ou subventionner le kilowattheure d'électricité qui est produit en cogénération. Mais derrière, on a un développement qui n'est pas du tout maîtrisé de ces outils-là, et c'est ça qu'on peut regretter. Dans un autre genre, il faut vous dire par exemple que la politique agricole commune, c'est-à-dire les subsides européennes qui reviennent en France, c'est à peu près 9 milliards d'euros par an, et par exemple, en 2020, j'ai un chiffre comme ça, en 2020, ces 9 milliards d'euros, ils ont constitué quasiment le revenu de la ferme France. C'est vous dire la dépendance de l'agriculture aux politiques publiques et les effets pervers d'une telle politique, qu'une telle politique peut engendrer sur un territoire.
Alors, ce que vous souhaiteriez, c'est une réappropriation de l'agriculture par les agriculteurs eux-mêmes ?
En tout cas, au niveau agricole, c'est très clair. C'est des cours d'économie qui sont pas d'un très haut niveau. C'est des produits qui sont relativement difficilement stockables, qui subissent les aléas climatiques plus que les autres. Donc, en fait, il faut une régulation des marchés pour arriver à mettre en adéquation l'offre et la demande, si on veut que tout le monde se nourrisse dans des conditions correctes. Hein, voilà. Alors, on a livré ces marchés agricoles à la concurrence internationale et choisi de faire baisser les prix des denrées agricoles, des denrées alimentaires. Et par ailleurs, pour compenser ça et pour permettre quand même aux agriculteurs de vivre, on a conçu un système qui octroie des aides directes au niveau de chaque ferme. Et ces aides, elles sont vraiment aujourd'hui liées de façon très étroite au foncier, à la détention de foncier agricole. Donc on comprend bien que là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que plus, quand on est dans un système où plus on a d'hectares, plus on a d'aides, plus on a de revenus, c'est compliqué pour des jeunes entrants de trouver du foncier pour s'installer.
Alors, est-ce que vous pensez que, justement, par rapport à ces problèmes, on pourra avoir quand même un monde agricole qui arrivera à s'en émanciper ?
Alors, en tout cas, ce qui nous rend optimistes à la Confédération paysanne et à la DEAR, qui est une association qui accompagne beaucoup de porteurs de projets, c'est qu'on a justement beaucoup de jeunes qui sont intéressés pour s'installer en agriculture, qui entendent développer des systèmes plutôt autonomes en termes d'achat, d'énergie, d'intrants, plutôt en harmonie avec la nature, voilà. Et donc, du coup, ce qui nous interpelle, par contre, c'est comment trouver à ces jeunes des lieux pour s'installer et réaliser leurs rêves, finalement, d'agriculture.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous sentez une volonté chez de nombreux jeunes de réaliser donc un autre monde.
Tout à fait, absolument, c'est exactement ça. Si on avait ne serait-ce qu'un petit coup de pouce au niveau des politiques publiques pour favoriser ça, on pourrait vraiment imaginer un autre monde agricole, en tout cas de façon assez facile et aisée, oui.
Eh bien, souhaitons que ce nouveau monde soit possible, en tous les cas pour en rediscuter, en rediscutant également de la politique de l'eau, parce que tout est imbriqué. On se donne rendez-vous le 13 octobre pour la grande conférence sur l'eau bien commun. À très bientôt, Xavier Fromont.
Merci, à bientôt.